Un revenant, Martin McGuire, bonjour.
Bonjour, Paul.
Je suis content que tu sortes de ta retraite, Martin.
Ça fait plaisir, Paul.
Jérémy Filosa est avec nous. Salut, Jérémy.
Allô,
salut,
Jérémy. Martin, salut.
Vous pouvez, Jérémy, tu peux intervenir quand tu veux. Martin, qu'est-ce qui s'est passé avec le Lightning?
Le Lightning a arrêté de jouer avec passion. Paul, ils m'ont fait penser aux pingouins que le Canadien avait sorti en 2010. À chaque fois, les pingouins, que le Canadien en gagne à une, les joueurs des pingouins disaient, mais ça se peut pas, on a bien plus de talent qu'eux, on va revenir, le prochain match va nous appartenir, on va faire tourner le vent de côté, et c'est pas arrivé. Ça s'était rendu quand même en 7. Puis moi, je regardais les joueurs du Lightning, surtout les joueurs clés. Kucherov, qui s'est fait surclasser par Panarin, Stamkos, qui s'est fait surclasser notamment par Matt Duchesne, entre autres, et Dubois, de l'autre côté. Je regardais ces joueurs-là, puis j'avais l'impression de voir des joueurs qui se disaient « Mais on est plus talentueux qu'eux, on va y parvenir. » Au début de la série, Vasilevski a semblé un peu chancelant par rapport à son compatriote de l'autre côté, Bobrovsky. C'est toute une série de petits éléments. Le Lightning, Paul, pendant la saison, jouait du hockey très énergique. Et cette énergie-là, on ne l'a pas vue lorsque les séries ont commencé. Et je sais qu'on va blâmer John Cooper, on va blâmer probablement même Julien Brisebois, mais ultimement, pour moi, ce sont les joueurs clés du Lightning qui n'ont pas livré, et aussi, sans leur livrer d'excuses, l'absence de Victor Hedman leur a fait tellement mal.
Et Martin, Jérémy nous disait tout à l'heure que ce sont des Pingouins de Pittsburgh vieillissants qui se sont inclinés en 4 matchs face aux Islanders.
Écoutez, je vais vous nommer le nom de 2 joueurs. Je suis convaincu qu'il n'y a pas 10 personnes actuellement qui marchent au centre-ville de Montréal qui connaissent ces 2-là. Pulock et Pelech. C'est pas le nom d'un nouveau dessin animé de Disney, là. Ce sont les 2 meilleurs défenseurs des Islanders. Il y a à peu près personne qui connaissait ces gars-là, et ces gars-là ont contribué à mettre KO le trio de Malkin et le trio de Crosby, Paul. C'est ce qui est vraiment impressionnant dans ce que les Islanders ont réussi. Les Islanders ont été impeccables défensivement. Ils ont littéralement coupé l'air des joueurs étoiles des Pingouins. Là, je vous parle même pas de Kessel, qu'on a à peu près pas vu pendant la série. Lui, ça fait déjà 1 an qu'on essaie de l'échanger. J'imagine qu'on va essayer encore de se départir de lui. Et dans le cas de Crosby, je parlais de passion pour le Lightning. Ben, à un moment donné, ça a affecté Crosby, puis on n'a pas vu non plus la passion qui habituellement anime le numéro 87. Les Islanders ont été tout à fait impeccables.
On termine avec Max Pacioretty. Jérémy, rappelle-nous ses statistiques.
Ben, écoute, c'est 10 points en 4 matchs seulement, donc il domine la Ligue nationale. Un gars qu'on disait qu'il ne se présentait pas pour jouer dans les matchs éliminatoires. Et je lisais les propos de Jonathan Marchessault qui, cette semaine, disait tout le contraire de ce qu'on disait de Max Pacioretty ici. C'est un bon leader, il s'implique physiquement et là, en plus, il produit en séries éliminatoires.
Il a vanté dans la chambre, il a dit c'était quelqu'un d'agréable qui crée une bonne atmosphère, Martin.
Messieurs, moi, je vous dirais ceci. Ce qui a chassé Max Pacioretty de Montréal et ce qui a conduit Max Pacioretty dans un cul-de-sac à la dernière saison qu'il a joué avec le Canadien, c'est essentiellement son conflit avec le directeur général Marc Bergevin. C'est devenu tellement lourd que c'était lourd à gérer pour la direction de l'équipe, c'était lourd à gérer pour Max Pacioretty. Et c'est ça qui a sorti Pacioretty de Montréal. Et c'était, tu sais, on est content ici de ce que Tatar a amené aux Canadiens. J'ai entendu tout l'hiver là, des gens dire que ça valait même plus la peine de penser à Max Pacioretty maintenant qu'on avait Tatar. Le jeune Suzuki va très bien actuellement. Il est en train de ramener son équipe dans une série demi-finale contre les Knights de London. C'est un joueur qui a du futur, mais n'oubliez pas, ça ne veut pas dire que le Canadien a eu des compensations intéressantes. Ça ne veut pas nécessairement dire que Max Pacioretty est fini. Il est en train de le démontrer. Il est en train de démontrer qu'il appartient à l'élite de la Ligue nationale, n'en déplaise à ceux qui lui ont cassé du sucre sur le dos lorsqu'il s'est enlisé dans un conflit personnel avec son directeur général à Montréal.
Merci beaucoup, Martin. Et n'hésite pas à revenir n'importe quand. Tu as une carte blanche.
Ça me fait plaisir, Paul.
N'importe quand. Bye. Et Jérémy, tu voulais me dire tout à l'heure, attention, faisons un petit parallèle avec Jonathan Drouin.
Oui. Parce que
je ne dis pas qu'il est en conflit avec Marc Bergevin, non. Loin de là. Mais faisons attention.
Souvent,
avant de dire il ne cadre pas, il n'a pas la bonne attitude, Faisons attention.
Ben, écoute, souvent, avec les joueurs de talent, on dirait à Montréal qu'on a tellement le nez collé sur la vitrine qu'on ne voit que les défauts de ces joueurs-là, alors que ce sont des joueurs qui sont capables de contribuer à plusieurs niveaux. Subban, Pacioretty, Drouin, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'on a le goût que le Canadien se retrouve dans une situation où ils sentent le besoin d'échanger Drouin, puis que dans un an d'ici, au printemps, on regarde Drouin avec les Sharks en série, marquer des buts, pendant que nous, on regarde autre chose. Unité 9 ou je sais pas trop quoi, là, mais c'est ça la réalité. Donc, souvent, je trouve que les problématiques qu'on voit à certains joueurs du Canadien, on les voit plus grosses qu'elles le sont réellement et on sent le besoin de s'en départir alors que ces joueurs-là, on le voit clairement, Pacioretty, Subban avec Nashville, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de conflit avec personne.
Il n'y en a pas de problème.
Au contraire, Marchessault l'a dit.
On s'en invente, on aime ça ici, nous autres.
Il est super fin.
Voilà.
Ben, voyons donc. On termine juste avec une petite note quand même pour les gens qui ne le savent pas. Félix Auger-Aliassim a perdu en deuxième ronde à Monte-Carlo.
Oui, exactement. 6-1-6-4 face à Alexander Zverev. Quelques petites notes chez l'Impact pour vous dire que Rémi Garde est l'entraîneur-chef de la semaine, Evan Bush, le gardien de la semaine. Et ce soir, trois matchs Ligue nationale. Donc, Boston à Toronto, Nashville à Dallas et Colorado qui reçoit Calgary.
Merci, Jérémy.
Salut.